J'ai une question pour vous. Savez-vous pourquoi Jacques Villeray a eu davantage de succès que Maurice Rich ? Pourtant, tous deux sont semblables. Eh bien, c'est l'exemplaire du jour de la Gazette de Basse-Puy-la-Haute qui y répond. Il y a un dossier très intéressant sur le sujet dans la double page centrale. Je vous préviens, c'est tout un contexte. Les années 60 viennent de se terminer et un grand film est en préparation. Film dans lequel les plus grands talents cinématographiques mondiaux seront impliqués. Et c'est ainsi que s'est tourné Viper Gator contre le parrain, un film co-réalisé par Philippe Clair et Roger Corman. À ce moment-là, Jacques Villeray travaillait comme perchiste, et il s'avère que Marlon Brando, qui avait bien évidemment repris son rôle de parrain, n'était pas bien en début de tournage et s'est fait porter pâle. Ne pouvant retarder la production du film, l'équipe a envoyé Jacques Villeray tourner à sa place. Bon, et la suite, vous la connaissez. De par son charisme, il a totalement effacé Marlon Brando, dont la carrière s'est complètement cassée la gueule ensuite. Et malheureusement pour lui, Maurice Rich n'aura jamais eu une telle opportunité. En fait, je vous en parle car j'ai eu le temps de lire deux fois l'article en attendant que Damien vienne au rendez-vous. Et je dois dire que je comprends mieux maintenant. Donc, Damien était là et m'a raconté toute l'histoire. Par où commencer ? Tout d'abord, la personne qu'on a entendue sur le dictaphone qu'on a trouvé est sa sœur, Karen. Il faut savoir que Karen et Damien viennent tous deux d'une famille anti-pastafarienne. Retenez-le, c'est très important. Les enregistrements qu'on a entendus sur le dictaphone étaient une sorte de journal intime. Karen indiquait les dates où elle mangeait des pâtes à la carbonara, car pour une bonne partie de sa famille, les sauces pastafariennes, c'est-à-dire carbonara, pesto et bolognaise, sont impures et rien ne vaut le ketchup. Le ton indiquait clairement l'angoisse de se faire prendre et le remords de Karen qui avait l'impression de décevoir ses proches. Et c'est pour ça que ça correspondait aux dates des sommets politiques. Karen et Damien vivent en colocation, et Karen profitait des absences de Damien pour s'adonner à la cuisine de pâtes à la carbonara. Car Karen pensait que Damien aussi était contre le pastafarisme, alors qu'au fond, ce dernier s'en fout totalement. Maintenant voilà, tous deux se sont dit ce qu'ils avaient à se dire. C'était beau. Mais il me restait un mystère à résoudre. D'où est venue la lettre de menace qui avait été placardée sur ma porte ? À écouter Damien, ce n'était pas lui, et il doutait très fortement que ce soit sa sœur. Alors autant en revenir à la personne qui m'en a averti. Thérèse. Thérèse, ma voisine. On a discuté, et très vite elle a avoué. C'est une question de point de vue, mais grâce ou à cause des parois peu épaisses des murs, eh bien, elle était au courant pour mon enquête. Il se trouve qu'elle était aussi au courant de ce que faisait Karen, qu'elle tentait justement de soutenir dans la clandestinité. Forcément, avec mon enquête, elle avait peur que le secret explose, et elle a tenté de me dissuader de continuer mon enquête avec la fausse lettre de menace. C'est pas bien d'avoir fait ça. Je veux dire, elle m'a donné de faux espoirs quant à un probable coffrage des membres du cartel des chaussettes sandales. Mais au vu des circonstances, je comprends. Au final, et je crois que ce sera la conclusion de cette affaire, je pense qu'un peu plus de communication ne leur aurait pas fait de mal. Et qu'un peu plus de communication en général ne fait pas de mal, car dans la vie, quand on ne fait confiance à personne, on s'expose à bien des désillusions. Car c'est de la communication, de la tolérance et de l'entente que viendra l'union. Car il n'y a qu'ensemble qu'on sera plusieurs. Et je conclurai cette enquête avec cette très belle réflexion de Parménide alors qu'il méditait sous l'arche Saint-Domain. Rien n'est impossible, sauf remettre le dentifrice dans le tube.